L'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Le monde du vin connaît bien Xavier Tuisat depuis sa double récompense obtenue en 2022. Meilleur ouvrier de France et meilleur sommelier de France. Mais pour les So Wine Talks, c'est plutôt pour évoquer sa passion pour le saké japonais que nous souhaitions le recevoir. En effet, nommé saké samouraï et président du concours Kura Master, Xavier Tuisat est le premier ambassadeur français de cette boisson délicate et œuvre pour sa reconnaissance. Quelle est l'image du saké en France et au Japon ? Et quel pont peut-on faire entre les codes du saké et du vin ? Aujourd'hui, un épisode en immersion dans l'univers du saké japonais avec Xavier Tuisat. Bonjour Xavier, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour.
Déjà, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît ?
Je suis donc Xavier Tuisat, je suis né aux Hospices de Beaune, entre Noël et le jour de l'an, le 28 décembre 85. Et bien sûr, j'étais bercé très rapidement dans le monde du vin, mais pour moi, le vin était un paysage plus qu'une vraie boisson. Et donc, c'est avec le temps que j'ai appris cela. Et effectivement, après mes études et aujourd'hui, après un bac littéraire, je suis parti dans le commerce de vins spiritueux pour être aujourd'hui chef sommelier de l'hôtel de Crillon.
Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de votre parcours ? Comment est-ce que vous êtes arrivé à être meilleur ouvrier de France et meilleur sommelier de France ?
Finalement, j'ai jamais conçu ma carrière autour de ça, hein, loin de là, parce que c'est des concours que j'ai présentés uniquement en 2022, pour la première fois. Mais j'ai commencé dans le vin en 2002, donc vous voyez, il y a 20 ans. Donc effectivement, j'étais pas du tout dans cette optique-là, mais ce qui est drôle, c'est que à l'époque, je suis en bac littéraire. Je passe pour faire ensuite des études de journalisme à l'école de journalisme de Dijon. Et là, on me dit, le journalisme, c'est très compliqué. Il y a très peu d'entrées et surtout, la suite, elle est compliquée parce qu'il y a peu de postes à pourvoir. Et donc, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas la bonne solution. Je rentre chez moi et je vous assure que c'est vrai. Je dis à mon collègue, parce que j'étais en bac littéraire, donc 22 filles, 2 garçons. Et je dis à forcément mon copain garçon, je dis « qu'est-ce que tu fais toi ?» Et il me dit « moi, j'ai un commerce de vin spiritueux parce que c'est une amie de ma mère qui a monté la classe en BTS. » Et donc je dis « banco, je te suis. » Mais j'avais aucune appétence pour le vin. Et c'est en commençant dans cette filière-là avec lui, c'est grâce à lui, que je me suis intéressé au vin. Et un soir, en décembre 2004, je vois un reportage à la télévision. Enrico Bernardo devient meilleur sommelier du monde. Et je dis waouh, c'est complètement fou. Donc j'avais déjà un an dans le vin. Et à la fin de ce reportage, j'ai dit je veux faire ça. Je veux être chef sommelier dans un palace comme lui. Et donc à partir de ce moment-là, tous les matins, j'ai cet objectif de devenir chef sommelier dans un palace. Et donc je travaille dur pour ça, beaucoup de théorie. Je reprends de zéro le service. Et donc ensuite des stages. Chez Bernard Loiseau à Saulieu, qui m'a embauché, donc là, avec Eric Gottelman, qui est un immense sommelier. Ensuite, stage deuxième année au Meurice, à Paris, et les deux vont m'embaucher par la suite. Et donc, voilà, je sais que je reste dans ces grandes maisons françaises pour ne jamais quitter de l'œil mon objectif. Le Meurice m'a rappelé, donc là, je suis resté 4 ans. Et ensuite, je suis resté 5 ans chez Gagnère, en tant qu'adjoint, et puis un jour, le Peninsula Paris lance son recrutement, le nouveau palace parisien recrute son chef sommelier. Et je me suis dit, j'arrive au bout de l'histoire, j'avais seulement 28 ans, et je suis quand même pris. Et donc là, c'était fabuleux parce que j'avais touché au but. Et pris en tourbillon, je vais un peu moins dans le vignoble, parce que j'ai pas le temps, tout simplement, c'est une ouverture colossale et ça demande aussi un effort physique très important, donc je suis aussi le week-end KO. Et je me rends compte que mon niveau baisse. Donc, pas baisse, mais stagne. Ou peut-être s'il baisse un peu. Le monde du vin va très vite. Donc effectivement, si on coupe, c'est fini. Et donc je me dis, peut-être qu'il faut que je songe à faire quelques concours pour me remettre à niveau. Et j'ai toujours eu ce rêve dans le un coin de ma tête d'être mof, parce que c'est pour moi une récompense ultime dans le métier, c'est l'artisanat dans l'excellence. Ça m'a toujours trotté, mais c'était pas un objectif vital pour moi. Et en 2018, je vais préparer ce concours, une première fois, ça peu de gens le savent, mais effectivement, je me prépare. Mais j'y vais pas, parce qu'en fait, ma fille Emma arrive, mais c'est mon épouse qui accouche, pardon, de ma fille Emma, quelques jours avant les sélections. Donc j'étais préparé un an, j'avais quand même vu les bénéfices, et je me dis, bon, bah, ce sera pour la prochaine. 2022, donc. C'est tous les 4 ans. Et effectivement, entre-temps, donc, j'ouvre le crayon. C'est peut-être l'une des périodes où j'ai le moins dormi de ma vie. Entre 4 et 5 heures par nuit, max 5 heures, j'ai pas fait plus, pendant 18 mois. Mais j'avais par contre cette envie d'aller au bout. Et je savais que c'était maintenant ou jamais. Et par le jeu du Covid, en fait, la même année 2022 se retrouve le MOF qui était prévu en 2022. Mais surtout le meilleur sommelier de France, qui était prévu normalement une année impaire. Et je me dis, bah, quitte à aller aux sélections du MOF, autant m'inscrire au meilleur sommelier de France. Ça me fera un entraînement pour le MOF. La grande différence des deux, c'est que le meilleur sommelier de France, c'est la théorie. C'est ce côté très encyclopédique, si j'ose dire. J'aime pas trop ça, mais c'est un peu ça. Et le MOF, c'est le personnage. C'est le quotidien, c'est comment vous gérez une situation, votre feeling avec les clients, votre capacité à faire de la vente additionnelle. Mais enfin bref, c'est le professionnel de la restauration qu'on juge. Donc c'est deux aspects différents. Donc pour vous répondre, ces concours-là, en fait, ne sont que le reflet de votre quotidien. Si vous êtes rigoureux dans le quotidien, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de piège, en fait. Ils vont pas réinventer la poudre le jour du concours. Hein. On sait comment on fait du vin. Juste, faut gérer votre stress et être bon quand il faut l'être et avoir des réflexes. Bon, finalement, voilà, ce n'est que l'accumulation d'années d'expérience et de travail. On peut pas arriver le jour J en disant « Tiens, je vais faire le MOF ». Si vous n'avez pas de régularité pendant 10 ans derrière, ça ne sert pas à grand-chose. Mais si vous êtes pointu, régulier, attentif et envie de bien faire votre métier, il n'y a pas de raison que vous ne le soyez pas.
Et aujourd'hui, on est là pour parler un peu plus particulièrement du saké. Comment est-ce que vous avez découvert le saké ou comment est né votre intérêt pour cette boisson ?
Alors justement, c'est quand j'ai été recruté par le Peninsula Paris, où là, je découvre une carte des mets invraisemblable. Je vois des légumes vinaigrés, parce qu'il y a aussi le restaurant chinois. Lily, il y a l'oiseau blanc là-haut, mais il y a Lily. Et Lily, je vois des choses, mais des légumes comme ça, je vois beaucoup d'œufs, beaucoup de soupe. J'ai pas ça en magasin pour créer le lien, je comprends pas. Et donc, mon épouse est japonaise. Elle est à l'ambassade du Japon, en fait, et elle me dit, nous, à l'ambassade, on a un monsieur qui s'appelle monsieur Kuroda, qui fournit tous les sakés pour son excellence ambassadeur. Dis, tu devrais aller le voir. Je vois, le saké, moi, ça m'intéresse moyennement. Et je vais le voir, ce monsieur qui est un homme incroyable, qui est malheureusement décédé. Et au final, il me donne le virus du saké, il m'enseigne le saké, je goûte, et là c'est clair pour moi. Je comprends tout de suite que c'est une boisson désaltérante, rafraîchissante. Mais je dis, mais quand je goûte, j'ai pas l'alcool, j'ai que de l'eau. Il me dit, c'est ça le saké, c'est la pureté absolue. J'étais loin d'imaginer ça, donc j'ai compris tout de suite le lien avec la cuisine française. M'a enseigné la production, m'a enseigné la philosophie du saké. Et effectivement, c'est comme ça que j'ai démarré. C'est grâce à lui. Et j'ai eu un coup de cœur professionnel immédiat. Et la première année au Peninsula, je vends 2000 verres de saké en un an. Et mon équipe de sommelier là-bas à l'époque a été complètement convertie à cette boisson. Ils m'ont vu très enthousiaste.
Et alors, par exemple, comment est-ce que vous avez convaincu vos sommeliers que c'était une boisson qui avait de l'intérêt? Si vous deviez nous redire ce que vous leur avez dit ce jour-là en disant « on peut y aller ».
J'aurais absolument dit la phrase d'amorce « c'est une bière de riz qui se déguste comme un vin ». Et en virgule, une boisson située à mi-chemin entre la bière et le vin. Et là, pour eux, le curseur était posé. Et ensuite, ils ont goûté, surtout parce que c'est par la dégustation qu'on arrive à être convaincant. Et je leur ai dit « maintenant, voilà, ça c'est mon style, donc des nez, des arômes très muguets ». Pommes vertes, anis, fenouil. En fait, c'est un registre qu'on a quasiment pas, qu'on a un peu, mais peu dans le monde du vin. Et en fait, ça nous ouvre un éventail. Navet d'aïcon, c'est croquant comme ça, blanc. On l'a, le racinaire, topinambour. Et donc, tout ça, ça a permis d'être plus lisible. Ils ont compris. Et l'idée, c'est qu'un sommelier, c'est un prescripteur de plaisir. Donc c'est quelqu'un qui va vous prescrire, pas le bon médicament, mais la bonne boisson pour qu'à chaque fois vous ayez l'émotion à table. Mais ça peut être des cafés, des thés, parce que j'utilise beaucoup ces boissons-là aussi. Ça peut être les vermouths de Turin, ça peut être des grands vins, ça peut être du saké. Et donc à chaque fois, on va chercher cette émotion par la boisson. Et c'est comme ça aussi que je conçois mon métier.
Depuis, vous avez beaucoup évolué dans l'univers du saké. J'ai cité en introduction deux titres.
Oui.
Donc, le titre Saké Samouraï et président du jury saké japonais du concours Kura Master.
Ouais.
Est-ce que vous pouvez expliciter un peu
ouais,
ces deux titres ?
Bien sûr. Le concours Kura Master, c'est un concours que j'ai créé en 2016, première édition 2017. L'idée, c'est qu'on fait un appel aux producteurs de saké japonais pour faire déguster aux sommeliers français qui vont mettre une note, mais pas n'importe quelle note, une note sur 100 où 40 points sont dédiés à la capacité d'accord mets et vins, enfin mets et saké, avec la cuisine française. Et ça, ça change tout. Parce qu'en effet, moi qui ai fait, je vais au Japon deux fois par an, c'était là mon 27e voyage cette année. Et en fait, j'avais fait quelques concours de saké là-bas avec les Japonais, où j'étais jury pour goûter les sakés, et eux, ils goûtent les sakés à l'inverse. En fait, ils cherchent le défaut. Tout ce qui est défaut, ils le pointent, tac, 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 et ils enlèvent des points. Ils partent de 100 sur 100 et ils dégradent la note. Donc, il y a, sur des très grands sakés, vous avez des notes très bonnes, et en fait, sur les sakés de bonne capacité gastronomique, mais qui rentrent pas dans les codes japonais, vous avez des mauvaises notes. Sauf que nous, on aime ça. Et le palais français n'est pas le palais japonais. Et moi, ce que je vends aux producteurs, c'est leur dire, nous, on va vous donner des clés pour importer en France les bons sakés qui correspondent au palais français. Et le palmarès, les médailles d'or, de platine, n'avaient rien à voir avec les médailles au Japon. Et du coup, ça émerge plusieurs talents, ça permet de mettre en valeur des nouvelles brasseries qui n'étaient jamais récompensées au Japon et qui gagnent les premiers prix. Les Japonais disent, ne comprend pas, et je leur dis, mais c'est pas tant le saké qu'on juge, bien sûr que oui, mais c'est surtout sa capacité gastronomique. Et donc ce concours, aujourd'hui on va être à la 8e édition là au mois de mai, et j'ai 1150 sakés sur la ligne de départ, j'en avais 300 à l'époque, et donc du coup c'est un grand succès, ça a permis d'apporter 37% de sakés en plus en 7 ans, donc un bon considérable, parce que finalement, et les Français étaient rassurés par ce palmarès, tiens, il y a une médaille bleu, blanc, rouge, c'était vu par l'Assemblée française, mais surtout c'est que ça a fait sold out aussi là-bas au Japon, parce qu'ils ont vu que les Français adoraient, donc ça les intéressait, ils ont tout acheté. Et c'est suite à ça qu'en novembre 2020, j'ai été nommé par l'empereur du Japon, Saké Samouraï, qui est un peu le mérite agricole japonais, une distinction qui a été créée il y a 100 ans à peu près, et on n'est que 18 étrangers à l'avoir reçue dans le monde, donc c'est une distinction très prestigieuse au Japon, et qui me donne d'ailleurs un droit de sol à vie au Japon, parce que c'est une reconnaissance de l'empereur et du gouvernement.
Et pour parler un peu plus précisément des stratégies de marketing et de communication du saké, est-ce que les producteurs de saké ont travaillé ensemble sur la construction de leur image ?
Ils sont en retard par rapport à ça. Le saké a un grand problème, c'est qu'effectivement, ils ont de vieilles traditions. C'est une boisson qui a 2000 ans, qui a toujours été consommée dans le Japon, à l'intérieur du pays, et selon un rite très traditionnel. Mais ils perdent la Seconde Guerre mondiale. En fait, ça part de là. Comme le Japon perd la guerre, ça va enclencher tout un processus en leur défaveur. Tout ça pour dire que le whisky arrive, whisky japonais, par ricochet plus tard. La bière, c'est le Japon, le troisième peuple qui consomme le plus de bière au monde. Donc le saké, qu'est-ce qu'il fait ? Il diminue, il baisse. On passe de 8000 brasseries en 1900 à aujourd'hui 1130. La chute est vertigineuse. Il n'y a rien qui peut arrêter cette chute, à part l'export. Parce que s'il n'y a pas d'export, la chute continue, parce que c'est devenu l'alcool du grand-père. La seule façon de rendre le saké sexy au Japon pour les jeunes, c'est de montrer que l'Occident, les Américains et les Européens, en boivent. Et là, ça va peut-être les intéresser. Et les Japonais n'étaient pas habitués à faire du commerce, encore moins du marketing. Et donc, ils commencent maintenant à s'y mettre un tout petit peu, mais sont assez maladroits, parce qu'ils n'ont pas des règles de commercialisation très logiques. Ils ont encore ces règles de commercialisation qui n'est pas encore très claire, parce qu'un saké qu'on paye 10 euros au Japon, on le paye 20 en France. 30 euros là-bas, 60 ici. Donc 60 euros la bouteille, en face, c'est quand même du monde en France. Hein. Donc ils souffrent de cette concurrence-là, ils sont en train de travailler, mais la seule stratégie, c'est d'aller viser le pairing, l'accord mets et vins, et mondialement, eux, c'est seafood et saké. Donc ça fait les coquillages, les poissons, tout ce qui est iodé, et ça, l'iode, pour eux, c'est essentiel, c'est leur fil conducteur. La porte d'entrée du saké, voilà, c'est ça, c'est la communication entre la relation entre l'iode, la cuisine, la seafood et cette boisson japonaise. Et c'est comme ça qu'on comprend. Et effectivement, quand vous prenez une huître, si vous aimez les huîtres, n'importe quel coquillage iodé, vous gardez l'huître en bouche et vous apposez quelques gouttes de saké en même temps en bouche, en gardant bien les deux ensemble. Et là, vous comprenez tout. La stratégie marketing, finalement, c'est presque cet aspect un peu, vous voyez, authentique. Et de pas aller chercher plus que ça. Ça, c'est le Japon.
Et justement, on voit qu'en France, il y a un grand retour de l'authentique, c'est ce qu'on cherche. Est-ce que ça, c'est une force du saké sur le marché français?
Oui, alors sur le marché français, ils ont plusieurs forces, le Japon, à vrai dire. Ils ont la vague japonaise. Vous savez qu'il y a des restaurants japonais partout à Paris. Donc là, c'est fabuleux parce qu'ils surfent dessus magnifiquement bien. Il y a deux cultures qui se respectent et qui s'aiment beaucoup. Les Japonais adorent la France, les Français adorent le Japon. On adore, outre la gastronomie, la culture japonaise. Elle est très populaire en France. Donc ça, c'est pour moi, c'est des éléments déjà clés, parce que naturellement, ces deux pays s'entendent bien. Cette authenticité, cette histoire qu'ils ont tissée pendant 2000 ans, nous permet de créer un super storytelling. Je rappelle une chose aussi très importante, c'est que l'eau est dans le saké déterminante. L'eau japonaise, c'est ma deuxième plus grande émotion de dégustation après Romane Conti 95. Romane Conti 95, c'était ma première, donc c'était waouh, j'ai un souvenir très clair de ce vin. Et puis la deuxième, c'est l'eau de Fushimi à Kyoto, qui est, tenez-vous bien, 16 fois plus pure que l'eau d'Evian. Et donc le producteur à Kyoto me dit, tu veux goûter l'eau? Je fais, oui, j'en serais ravi. Donc je m'agenouille devant la rivière, sur l'herbe, je tends un verre, j'attrape de l'eau comme ça, et je goûte. Et là, j'ai eu des frissons parce que j'ai senti passer quelque chose, mais j'avais rien. Là, j'avais rien. C'est vraiment comme si rien n'était passé, et c'est une sensation très, très, très étrange. Cette sensation, en fait, m'a fait comprendre tout le Japon. En une fraction de seconde, j'ai compris la beauté du rien, la beauté du zéro absolu. Vous savez, dans les comptoirs à sushi, il n'y a pas de déco. Il y a juste de baguettes, basta. Mais c'est ça, en fait, le Japon, et j'ai tout compris comme ça. Donc, l'eau japonaise, c'est effectivement la base de la culture, et surtout c'est ce qui est fondateur pour le saké.
Et selon vous, est-ce que les acteurs du saké ont su s'adapter aux problématiques sociétales des consommateurs actuels et rester quand même un peu dans la tendance, que ce soit au Japon ou en France?
Alors ils sont malins, les Japonais, parce qu'ils font aussi plein de choses comme ça. Ils sont très modernes, hein. C'est-à-dire que c'est un peuple fascinant. Ils sont ancrés dans la tradition, mais résolument modernes. Et là, ils ont créé le saké low alcool. À 7 degrés d'alcool. Mais c'est génial, parce que c'est même le yuzu, le liqueur de yuzu, déjà goûté, c'est à 7-8 degrés d'alcool, mais c'est magnifique. C'est très dangereux d'ailleurs. Et oui, par ce biais-là, quand on raisonne beaucoup sur le sans-alcool ou le low-alcool, ils sont très forts parce que effectivement, ils ont réussi à créer une variante comme ça. Et c'est surtout, moi, le discours qu'ils ont et qui est magnifique, qui est vrai, c'est la boisson la plus saine du monde. Pas d'engrais chimiques, parce que c'est d'une rizière, les pieds dans l'eau, donc aucun produit ne peut résister les pieds dans l'eau, il n'y a qu'un intérêt. Respect de la nature, pas de soufre, zéro, parce que c'est pasteurisé, donc il n'y a pas de soufre. Et donc c'est la boisson la plus saine du monde, la plus pure, et même pour l'organisme, c'est celle même si c'est de l'alcool au final, c'est un alcool qui est issu d'une autre matière, qui n'est pas un alcool issu du raisin ou d'une distillation. Et donc, ça permet aussi de répondre à tous les critères de biodynamie, puisque naturellement, c'est bio. Je rappelle qu'au Japon, la religion principale, c'est le shintoïsme, qui est le dieu au Japon. Le dieu, c'est les animaux, la nature et les éléments. Le vent, le feu, l'eau, etc. Donc, ils respectent naturellement. Et si vous mettez des produits chimiques, c'est extrêmement mal vu au Japon. Ça existe, hein, pour l'industrie. Faut pas se voler la face. Mais quand vous êtes agriculteur, c'est extrêmement mal vu de donner du poison au sol, au dieu, en fait. Et donc, du coup, ils le font pas. Donc, de ce fait-là, c'est par ricochet la boisson la plus saine et la plus bio du monde.
On voit quand même la fermentation, c'est une mode aujourd'hui. On la retrouve beaucoup en cuisine, on la retrouve dans plein de boissons différentes. Est-ce que ça peut être un atout fort du saké en France ?
Forcément, le saké est un produit fermentaire et dans l'air du temps. Il correspond à plusieurs facteurs. Je dirais que tout d'abord, l'aspect fermentaire le garantit que c'est sain, malgré tout ce qu'on peut imaginer. Le no-alcool et le low-alcool, j'aimerais faire le parallèle entre aussi l'actu du vin et ses macérations, ses vins de macération. Donc, macération, fermentation, vous voyez, tout c'est un peu lié, hein, c'est la vie microbienne. Et en réalité, le saké, il y a eu le vin nature, le vin de macération. Le prochain sur la liste, c'est le saké japonais. Parce qu'il réunit les trois précédents en un. Et si on aime cette exploration du goût, eh bien, le saké n'a pas de soufre. Le saké est issu de fermentation. Et donc, il a ce spectre qui réunit tous les styles de vin qui sont tendance actuellement. Et je suis persuadé que dans les bars à vin du 11e ou du 9e, pour pas les citer, on va retrouver le saké au vert partout. Et c'est un devoir presque. Si vous défendez des vins nature proches de l'origine, de leur terroir, de leur sol, ben, le saké, c'est exactement ça. Et donc finalement, y a très peu d'intervention parce que du coup, les Japonais ont peur de déformer ce que la nature a donné. C'est exactement la même philosophie que les vins nature ou les vins de macération ressuscitent une boisson qui a 7000 ans, 8000 ans, comme en Géorgie. Ben, là, le saké a 2000 ans. Donc pour moi, c'est extrêmement complice. Je suis pas certain que ça vienne du saké. Par contre, le saké est la suite logique, ça très clairement. Et c'est pour ça que les grands groupes comme LVMH rachètent des brasseries de saké depuis 2023-24. Ça, c'est nouveau. Ça n'a jamais été le cas. Et ils sont honnêtes bêtes. S'ils le font, c'est qu'il y a une raison. Ils savent que c'est le next step du monde du vin. Et que moi, mon rêve, c'est qu'un jour, il y a un grand Kuramoto, donc président de maison de saké, qui fasse la une du Decanter ou du One Spectator. Là, on aura fait un sacré point en avant, et surtout que le monde du vin adoube le saké. Richard Geoffroy, dont Pérignon pendant 30 ans, chef de cave, a créé sa propre maison de saké là-bas. Voilà, c'est pas rien, vous voyez. Et donc, pour ça, je me dis, tenez-vous bien, parce que c'est le début de l'histoire.
Là, on a beaucoup parlé du saké en termes assez général, on a parlé du saké japonais globalement. Est-ce qu'il y a certains producteurs ou certaines marques qui sortent du lot en termes de marketing ou de communication et qui vont vraiment à l'assaut du marché occidental ?
On peut citer bien sûr Dasai. Dasai, c'est une marque qu'on connaît. Hein. D'ailleurs, beaucoup de Français ont appris le saké par Dasai. C'est des sakés très purs, très délicats et ça représente bien le Japon. C'est eux qui ont vraiment pris leur bâton de pèlerin et qui ont fait le tour du monde. Joël Robuchon, d'ailleurs, a été un des partenaires historiques de Dasai. Et ça, effectivement, c'est eux qui ont percé le marché américain, qui est un marché très puissant dans le monde. Le marché brésilien également. Énorme marché du saké. Le deuxième plus gros après le Japon, parce que c'est la deuxième population japonaise dans le monde, en dehors du Japon. Ils sont 400 000 Japonais au Brésil. Et effectivement, ça fait partie de ces boissons qui s'exportent magnifiquement bien et qui réunissent quasiment toutes les cuisines et toutes les cultures. Parce que le saké n'est pas une boisson d'accord, proprement dit, mais une boisson qui est un exhausteur de goût. Quoi que vous mettiez en face, ça va venir en soutien, ça élève l'ensemble. C'est une façon très particulière, mais qui est indescriptible. C'est magnifique.
Qu'est-ce qu'il faudrait selon vous pour que les Français s'intéressent encore plus au saké ?
Pour percer un marché domestique, quel qu'il soit, hein, France, Italie, n'importe quel pays du monde, vous devez donner des codes de consommation. Et surtout, rassurer le public en disant que ce saké se marie bien avec le fromage de chèvre. Là, ça nous parle. Hein. Et donc là, du coup, on va acheter du saké pour le fromage de chèvre. Vous voyez ? Et pas l'inverse. Et donc, du coup... Voilà, ayant ces codes rassurants de se dire, tiens, ça fait un lien avec les asperges vertes du Vaucluse pour le printemps, avec toutes mes chèvres, fromage de chèvre, sec, frais, etc. Là, on a déjà des repères. Et c'est ça qu'il faut instaurer. et c'est ce qu'on est en train d'instaurer depuis quand même pas mal d'années, mais rassurer le consommateur avec des produits complices du saké de son quotidien. Et ça marche à chaque fois.
Et justement, est-ce qu'on peut créer des liens entre les codes du saké et les codes du vin ou d'autres boissons alcoolisées d'ailleurs?
C'est exactement ce que j'ai fait pour prescrire le saké en France, parce qu'on me l'a reproché forcément, parce que j'utilisais des mots, des gros mots. Je disais que le riz, c'était un cépage. Wow, mais qu'est-ce que tu dis? Ben, je fais, mais néanmoins, c'est ça. Que le toji, c'est le maître de chez. Mais si je vous dis un toji, mais les gens, c'est du japonais. Donc, je peux pas convaincre et je peux pas expliquer le saké. Donc, j'ai dû créer un vocabulaire parce que ça n'existait pas. Et donc, on est parti pour dire que le riz, c'est l'aromatique. Le terroir, c'est l'eau. Et puis que le maître de chez, voilà, complète cette notion de terroir avec son savoir-faire. Puisque un maître de chez, dans chaque région, a une façon de faire très différente. Et si vous changez de région, en tant que maître de chez, vous déménagez, vous devez refaire l'école de la région. C'est-à-dire qu'un vigneron à Bordeaux ne peut pas vinifier en Bourgogne. Il faut qu'il refasse le DNO en Bourgogne. C'est fou, hein, mais c'est comme ça que ça se passe au Japon. Et donc, il y a beaucoup de traditions, et donc c'est ça que j'essaye aussi d'expliquer aux clients, et ça, c'est fabuleux. Donc, on s'amuse beaucoup.
Il y a aussi une idée reçue qui me semble très forte en France, c'est que le saké, c'est fort. C'est pour ça qu'on en parle comme d'un spiritueux.
C'est une boisson, donc, comme je disais tout à l'heure, hein, entre la bière et le vin. Donc on est autour des... Ça va entre 11 degrés, 12, 13, 14, 15. 15, c'est le degré classique au Japon, 14, 15. Et puis certains qui font 16, 17, mais 17, c'est le grand max. Hein. Je rappelle que le Porto, c'est quand même 20 degrés, au passage. Donc c'est bien moins que le Porto. On veut dire que c'est un Châteauneuf du Pape blanc mûr. Mais c'est pas plus que ça au final. Et c'est vraiment ça qu'il faut marteler, c'est que ce n'est pas un spiritueux. Surtout pas parce qu'un spiritueux, c'est distillé. À aucun moment, il y a une distillation dans le saké. C'est fermenté comme une bière. De la même façon, de la céréale au sucre et du sucre à l'alcool.
Et alors, pour conclure, on a une question très vaste. Mais selon vous, ou peut-être selon vos espoirs, quel est l'avenir du saké en France et à l'étranger?
Dans la quête du bien boire pour le corps, du boire sain, forcément le Japon et le saké ont un boulevard devant eux. Dans la quête de la surprise, de surprendre ses convives, ses amis, le saké a un boulevard devant lui. Et dans la quête de l'expérience gastronomique, de l'émotion à table, le saké a un boulevard. Voilà, conclusion pour l'avenir, c'est qu'effectivement tous les feux sont au vert. Et que mon rêve un jour, c'est que chaque Français ait dans son frigo une bouteille de saké. Ça serait magnifique. Et je pense qu'on va d'abord passer par les cavistes, donc le commerce de proximité, et ensuite par la grande surface. Ça va être pour moi le schéma de distribution des sakés sous 10 ans. Et là, on aura touché une grande population.
C'est avec passion que Xavier Tuiza parle du saké, comme un amateur d'aromatique qui aurait trouvé une boisson en phase avec les goûts et les tendances de consommation actuelles. Loin de voir le saké comme un spiritueux, il faut le considérer comme un vin de riz à la pureté inégalable et qui offre à la gastronomie française tout un pan d'accords inattendus. Une offre infinie de possibilités pour le saké, comme le dit Xavier Tuiza, pour qui n'a pas peur d'expérimenter. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation des vins et spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui donner des étoiles sur vos applications de podcast préférées. Un épisode écrit et produit par l'agence So Wine.